tous et bienvenue dans cette grande table du jeudi. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le droit est-il neutre dans le droit contre les démons de la politique? Maître François Saint-Pierre invite à la subordination du politique au juridique et non l'inverse. L'avocat essayiste est notre invité. Il nous rejoindra après le journal de Thomas Cluzel à partir de 12h55. Mais d'abord, elle est Manon dans un opéra de Jules Massenet mis en scène par Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon, dirigé par Marc Minkowski, à voir jusqu'au 21 mai à l'Opéra Comique de Paris, après Genève et Bordeaux. Du baroque au classique, elle passe d'un répertoire à l'autre. La soprano colorature Patricia Petitbon est notre invitée. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
D'après l'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, publiée au XVIIIe, créée pour la toute première fois à l'Opéra Comique en 1884, l'opéra de Jules Massenet retrouve donc, 150 ans plus tard, la salle Favart. En route vers le couvent, Manon fait une halte chez son cousin Lescaut, se retrouve entourée de courtisanes et de courtisans dans une ambiance de fête et de débauche. Manon, en répétition générale à l'Opéra Comique à Paris, sollicitée de toutes parts, elle croise un jeune chevalier des Grieux, interprété ici par Frédéric Antoun, et c'est le coup de foudre. Il l'enlève pour l'épouser, mais le cousin Lescaut, un riche admirateur, est conduit, Guillot et un troisième, Bretigny, n'ont pas dit leur dernier mot. Ils séparent le couple et la perfide Manon abandonne son amant qui décide de devenir abbé pour l'oublier. Patricia Petitbon, bonjour.
Bonjour.
J'ai tenté de résumer en quelques mots l'intrigue de ce Manon.
Très gentil. D'ailleurs.
Vous allez pouvoir y ajouter un tout petit peu de cruauté, je vous laissais ce soin-là. Manon, c'est un cœur simple pour vous, perverti par la ville, par les hommes, par l'argent, ou dès le départ, elle n'a vraiment rien d'une oie blanche?
Je pense qu'elle est, elle est assoiffée de l'instant, de ici et maintenant, tout de suite, tout comme des Grieux. Ce sont deux personnages qui sont frénétiques. Qui sont habités par la soif, par la passion. Et surtout Manon, je pense qu'elle sait qu'elle va avoir une vie courte. Donc elle est toujours en juxtaposition avec la mort. Et donc, c'est la passion, c'est Cocteau disait son cœur la mange. Voilà, c'est ça. Elle est débordée par beaucoup de vie, et puis elle veut un destin. Et donc, pour avoir un destin, elle s'affronte évidemment aux hommes qui, à cette époque, on peut dire que la femme est un objet. Donc, elle n'a pas vraiment de choix. Soit elle est prostituée, soit c'est une bourgeoise, on la marie, soit elle va au couvent. Donc, c'est pas très brillant, on va dire, l'image de la femme à cette époque-là. Et donc, elle choisit, je pense, elle sait qu'elle a du charisme, elle sait qu'elle est belle, elle choisit, la volupté, quoi, le plaisir. Et puis elle rencontre effectivement Desgrieux, qui lui est un personnage assez mystique, qui est à la recherche soit de l'absolu, soit de Dieu, soit il veut Manon. C'est cette quête, mais il ne veut pas, l'autorité du père, ce que lui demande son milieu bourgeois, c'est-à-dire se marier avec une brave fille, se ranger. Non, là on est vraiment dans une sorte de Bonnie and Clyde du 18e.
Et puis il y a ce coup de foudre auquel il est compliqué, difficile de résister. Il faut dire qu'elle est extrêmement belle, très attirante, très séduisante, que ce charme, elle en a conscience aussi, autant d'ailleurs que de la finitude des sentiments et de cette beauté qui est éphémère.
C'est un
elle
coup
le chante,
de foudre frénétique, c'est-à-dire que il arrive à un moment donné, c'est une synchronicité, il arrive à un moment où elle doit aller au couvent et il y a un homme sur son passage et c'est Desgrieux. Et Desgrieux, lui aussi, cherche à sortir de son chemin tracé de bourgeois, cadré, et il rencontre Manon. Donc c'est vraiment, c'est le destin.
Aimons, rions, chantons sans cesse, nous n'avons encore que 20 ans, c'est ce que chante Manon. Ailleurs, elle évoque cette jeunesse dont il faut pouvoir profiter, parce que le printemps est bien court, hélas. C'est une femme enfant avec juste ce qu'il faut d'impertinence, de provocation pour faire tourner la tête de tous les hommes qu'elle croise. Une audacieuse aussi qui a envie, vous le rappeliez, Patricia Petitbon, de goûter la vie, de ne rien s'interdire, de jouer de ses charmes et être amoureuse entre chimère et désir éphémère. Eros, dit Olivier Py, le metteur en scène, c'est une figure du désir avant tout, une figure de la femme libre, telle qu'on pouvait l'être ou tenter de l'être au 19e.
C'est presque une figure, elle devient un mythe en fait. C'est un mythe, c'est le sphinx étonnant. C'est l'Eros, telle qu'on, de façon très symbolique, elle représente... Elle représente un peu toutes les femmes, tous les travers des femmes, toutes les qualités des femmes. Elle est à la fois un petit peu dans la même veine que Lulu, que Nana de Zola. Vous voyez, elle est utilisée par les hommes. Elle tire son épingle du jeu, mais c'est une figure vraiment presque mythique. Elle arrive de façon très 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 douce et elle s'efface aussi de façon très très douce, mais elle laisse une marque indélébile. Desgrieux, on pourrait dire que il rencontre vraiment l'amour sans l'éros au moment où elle meurt. C'est à ce moment-là qu'il rencontre l'amour, pas avant.
Vous l'interprétez comme ça ?
Oui, je l'interprète comme ça, aussi comme Olivier Py. Mmh. Je pense qu'il y a aussi une transcendance dans cette mort. Ce sont des personnages qui cherchent la transcendance dans la vie. Et donc le lien coupé par... cette fin de vie, là il se retrouve face, il n'y a plus d'Eros, quoi, parce que le corps n'est plus.
Au 19e, vous l'évoquiez, la vie des femmes n'est pas rose. Entre libertinage et jeu, sexe et argent, Manon nous replonge dans ce siècle cru où les femmes étaient ou catins ou mariées, souvent mal mariées, pas par amour. Vous parliez de ces sœurs lyriques, de ces sœurs littéraires ou d'opéra. Qu'est-ce qui la distingue quand même au fond d'une dame aux camélias, la Violetta de la Traviata, d'une Carmen ou d'une Nana ou d'une Lulu que vous évoquiez?
Parce qu'elle veut un destin.
Pas les autres.
Non, c'est différent. C'est différent. La Traviata, elle cherche l'amour. Elle cherche l'amour. Alors, ce qui est intéressant avec la Traviata, c'est qu'elle a aussi cette juxtaposition avec la mort. C'est-à-dire qu'elle sait. Elle sait qu'elle va mourir. Elle a une récidive. Enfin, en tout cas, elle a été malade dans l'histoire de l'opéra. Elle retombe malade. Enfin, elle sait qu'elle va. Voilà, elle va y passer, en gros. Mais la dame aux camélias, elle tente l'amour, quoi. Elle tente de découvrir ce que c'est. Parce qu'en fait, elle n'a jamais vraiment aimé, et elle n'a pas été aimée aussi. Donc c'est aussi le lien avec Loulou, cette femme avec plusieurs formes, voyez, multiformes, c'est-à-dire que les hommes y voient ce qu'ils veulent y projeter. C'était la même chose avec Traviata. Il y a ce don de sacrifice aussi chez Traviata. Elle se sacrifie pour Alfredo. Voilà, elle. Là aussi, l'histoire du père qui recadre son fils dans la bonne société, évidemment ne pas être avec une prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais voilà, Manon veut devenir quelqu'un.
Loulou, c'est un opéra en trois actes d'Alban Berg que vous avez déjà interprété, mis en scène par Olivier Py, que vous retrouvez donc pour cette Manon. On va reparler de votre rencontre, du travail que vous faites ensemble. Mais d'abord, voilà ce que disait Olivier Py de vous, pourquoi il vous avait choisi à cette occasion de Loulou, qui avait été jouée au Grand Théâtre de Genève.
Oui, c'est Patricia Petitbon qui a été d'abord notre poupée, à qui on l'avait demandé. Pierre-André lui avait demandé d'apparaître dans le rôle d'Olympia, dans le costume de l'Olympia de Manet, c'est-à-dire habillé d'un ruban.
Voilà, ouais. Elle m'a dit, tu es costumier.
Donc elle a dit, si on en refait un, j'aurai droit à quelques beaux costumes, j'espère. Mais tout de suite, je me suis dit, c'est exactement elle qu'il faut pour Loulou, parce que je sentais une intensité dramatique derrière ce côté clown qu'elle peut avoir. Quelquefois, et aussi parce que je crois que sa voix, contrairement à son tempérament, est beaucoup plus dramatique que ce qu'on imagine. Donc, je me suis dit, à mon avis, c'est une Loulou parfaite, et on a imaginé de faire ensemble cette folie. On a tendance à dire que cette musique est difficile, complexe, technique, cérébrale. Pas du tout, pas du tout. Moi, je n'ai jamais eu de difficulté avec la musique de Berg. C'est une musique tripale. Il faut écouter ça d'abord comme du théâtre, et puis ensuite comme on écoute une musique de film d'horreur, qui est là pour dire le chaos du monde. C'est pas du tout une musique difficile.
Ce n'est pas une musique difficile, ça c'est à voir comment le metteur en scène l'interprète, c'est différent pour,
non, mais c'est-à-dire
pour
que...
la chanteuse. Mais...
Oui, non, mais il y a un travail effectivement de mémorisation qui est d'ailleurs, qui a été une expérience pour moi assez exceptionnelle. Je veux dire qu'à partir de là, mon cerveau s'est démultiplié parce que justement il faut être un peu partout. D'abord il faut avoir un cerveau qui compte, qui sache se dédoubler, se tripler, voyez, qui soit en troisième dimension, qui ait une conscience de l'orchestre. C'est comme si vous aviez un triangle, en fait, à la place du cerveau. C'est-à-dire que il y a beaucoup de strates. Il y a une corporalité à voir. Et puis, il y a un moment donné, on se jette dans toutes ces données. C'est une musique qui a un aspect extrêmement mathématique, parce que vous comptez, hein. Votre cerveau ne s'arrête jamais, en fait, de transpirer quelque part. Et en même temps, c'est une musique très corporelle, qui agit sur les sens, qui demande énormément de réserves, de ressources, qui est tripale, comme il le dit. C'est vraiment le chaos, mais c'est le chaos aussi dans le corps. Hein. Vous devenez le personnage. Il y a beaucoup d'aspects, la voix parlée, la voix chantée, des voix chantées extrêmement variées, différentes. C'est un rôle qu'il ne faut pas chanter trop longtemps. Parce que c'est comme une mâchoire de crocodile, vous voyez. Mmh. Ça vous mastique les cordes vocales à un moment donné. Tellement c'est un côté très archaïque, justement. Voilà, effectivement, c'est pas une musique cérébrale, mais c'est une musique, je dirais, qui fait appel à un certain archaïsme, à quelque chose de primordial.
Vous parlez de Manon ou de Loulou depuis tout à l'heure?
Je parle de Loulou.
De Loulou.
Je parle de Loulou.
Et ce que vous dites sur Loulou vaut aussi pour Manon?
Non, pas de la même façon. C'est totalement différent parce que c'est une écriture différente. Mmh. Le personnage est aussi moins machiavélique que Loulou, parce que Loulou amène vraiment les hommes à se tuer, quoi. C'est une horreur. On est vraiment dans le drame, humain, dans la noirceur de l'âme, hein. Aussi angélique que puisse être aussi Loulou, parce que l'angélisme est aussi diabolique, hein. Voilà. Mais Manon, c'est encore autre chose. C'est une frénésie, c'est un appétit de vivre, c'est un cœur d'enfant, voilà, qui se dévore tout seul et qui se brûle les ailes. Et c'est un personnage extrêmement christique aussi.
Loulou, c'est le rôle que vous avez préféré interpréter? On a l'impression que vraiment il vous a permis d'aller puiser confins, des zones refermées jusqu'ici.
Oui, c'est-à-dire que ça m'a apporté une ouverture incroyable, un défi incroyable aussi dans le corps, dans le cerveau. Ça m'a, c'est une aventure théâtrale absolument. C'était très excitant, quoi. Surtout avec Olivier Py. C'est une transe. C'est une transe de chanter Loulou. Comme je vous dis, il faut savoir s'arrêter. J'ai consacré peut-être 2 ans de ma vie à Loulou. Et ensuite, j'ai écouté ma voix intérieure qui m'a dit, c'est bon, tu as vu le personnage, tu l'as bien... T'es allé à fond et au fond, en profondeur, dans les entraves, dans les cryptes de ce personnage. Donc maintenant, tu peux fermer la porte, et tu peux passer à autre chose.
Après les contes d'Hoffmann, après Loulou, après les dialogues des Carmélites que vous avez aussi travaillé ensemble, Olivier Py est devenu un metteur en scène incontournable de votre parcours. Vous lui serez fidèle, il y a des envies de collaboration future. Il réinvente quelque chose aussi de vous à chaque fois.
Oui, mais je pense aussi que c'est un... c'est mon âme sœur, c'est mon frère, c'est tout à la fois, vous voyez, parce que ça s'explique pas, hein, les rencontres, hein. C'est une chose qui se... C'est dans l'air, quoi. Qu'est-ce qui fait que deux personnes s'apprécient la première fois j'ai rencontré Olivier Py, parce que effectivement c'était ce costume de la poupée. La première fois, on m'a dit tu vas monter un escalier, tu seras nu, tu vas descendre comme Olido. Je me dis mais qu'est-ce que c'est, quelle horreur. Mais non. Et donc j'ai rencontré Olivier dans un petit café près du Châtelet. Et puis c'est vrai que la première fois je l'ai vu arriver, je me suis dit mais quel est ce personnage? J'étais assez subjuguée d'abord par sa façon de parler, par les termes qu'il employait, par son vocabulaire, cette transcendance aussi que je voyais. C'est un être qui transcende aussi la femme et qui la sublime. Et c'est ça que j'aime chez lui. C'est cette sublimation de la scène, de nous porter très très loin dans quelque chose qui est aussi mystique. Pas mystique au point de vue religieux, mais mystique dans la façon de mordre, voyez, dans l'art, quoi, dans la voix, dans l'espace, dans les décors et dans l'histoire.
Et à propos, l'ère de la petite table, un pur moment de philosophie ontologique pour Olivier Py. Pourquoi faut-il qu'il y ait de l'être plutôt que rien, dit le metteur en scène dans la revue Transfuge. Une dimension métaphysique, jusqu'où va-t-elle s'élever cette Manon extrême?
Thank you.
adieu notre petite table. Bonjour, la grande table midi 23. Sur France Culture, on est avec notre invitée, la soprano Patricia Petitbon.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Marc Minkowski, qui dirige l'orchestre en ce moment à l'Opéra Comique pour ses représentations de Manon de Jules Massenet, mise en scène par Olivier Py avec vous, Patricia Petitbon, parle d'une partition très complexe entre didascalie et changement de mesure. Est-ce que cette difficulté l'a été aussi pour vous dans le chant, dans la manière de l'interpréter? Je pensais notamment à ces mots de l'abbé Prévost, l'auteur du roman, de ce texte, qui parle de cette tension intérieure qui habite Manon. Il en dit « On se demande la raison de cette bizarrerie du cœur humain qui lui fait goûter des idées de bien et de perfection dont il s'éloigne continuellement dans la pratique, ce cœur. » Vous, vous avez un timbre très, très, très pur. Comment on traduit cette valse hésitation intérieure, celle de votre personnage, Manon? Est-ce que ça passe par des affects qui vont influer sur la voix?
Oui, parce que oui, c'est un point important dont vous parlez là, parce que il y a la langue française, évidemment, la diction, voilà, la théâtralité de cette langue, c'est-à-dire que suivant comment vous allez remplir les syllabes, les consonnes, comment vous allez colorer un mot, ça peut être interprété, en tout cas vocalement, de mille façons. Et c'est ça qui va donner la personnalité du mot et aussi l'imaginaire du mot, qui va lui donner une dimension, j'irais, géométrique aussi dans l'espace. Il va se transformer, il va s'étirer, il va s'agrandir. C'est-à-dire que c'est pas juste un mot collé, voyez, sur une voix. C'est la voix qui va donner l'émotion, et qui va lui donner une véritable incarnation. Et c'est ça, Manon. C'est comment avoir cette sédimentation au fur et à mesure pour arriver à la maturité de Manon aussi, voyez, jusqu'au passage où elle est au casino avec des grieux à Saint-Sulpice, où elle défie Dieu, parce que c'est ça, Manon, elle défie Dieu pour récupérer évidemment son amoureux des grieux. Et là, c'est vraiment, par exemple, le passage, c'est là pour moi que l'opéra commence, hein, réellement. Dans la vocalité, la volupté, où on se noie dans le son. Enfin, on y arrive, et c'est à Saint-Sulpice, à l'église. C'est ça qui est assez paradoxal, l'église, qui est aussi l'image, vous voyez, d'une architecture où il y a un son qui est vaste, mais aussi le son de Manon, ces deux voix qui s'entremêlent entre Desgrieux et Manon, la résistance, voyez, la résistance et aussi l'empathie entre ces deux personnages. Donc oui, il y a un abécédaire chez Massenet, aussi, je veux dire, une ponctuation.
Mais du coup, vous vous accrochez beaucoup au livret, à la partition, aux indications.
Oui, mais une fois
que vous y allez à l'instinct.
Eh ben, oui. Vous savez, à l'improvisation. Mais oui, parce que c'est toujours une improvisation. Et puis votre corps, il est différent chaque jour. Donc un chanteur d'opéra, c'est très simple, il ne chantera jamais de la même façon chaque soir. Vous incarnez dans le temps qui est là, qui est le vôtre, à la seconde où vous devez faire certains sons, certains aigus, et certaines émotions qui seront à chaque fois différentes. Et donc évidemment, la naissance du son vient de ce que vous voulez mettre dans cette incarnation du moment.
Ça fait partie, Manon, des opéras dont votre arrière-grand-mère vous parlait. Vous avez grandi avec cette figure-là, ce mythe, Manon?
Oui, je n'ai pas grandi avec le mythe de Manon, mais je l'ai découvert très tôt à mes débuts, parce que je faisais, bon, comme beaucoup de sopranos, j'ai fait le rôle de Poussette. Il y a ces trois filles-là qui sont vraiment comme un petit noyau, vous voyez, comme les trois parcs. Et j'ai pu voir de très grandes chanteuses, très grandes chanteuses interpréter le rôle de Manon. Et c'est vrai que, c'est un opéra qui, pour moi, compte parmi mes favoris, que ce soit Dialogue des Carmélites, c'est comme les trois parcs, vous voyez, Manon, Dialogue des Carmélites de Poulenc, et Pélas et Mélisande de Debussy, Maeterlinck. Voilà, pour moi, c'est les trois, C'est, voilà, c'est les trois perles précieuses.
Mais c'est un rôle-titre qu'on interprète, qu'on n'adopte pas forcément à 20 ans. Il fallait un peu, il faut aussi une certaine maturité pour le.
Je pense qu'il faut une certaine maturité. Une maturité évidemment vocale, mais bon, vous avez aussi des chanteuses qui ont une maturité vocale différente à certains âges. Vous voyez, moi, ça arrive maintenant.
Vocale mais aussi ou émotionnelle.
Émotionnelle, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'effectivement. La chose la plus importante, au-delà du fait qu'il y a la voix, c'est la maturité émotionnelle. C'est de savoir, à un moment donné, lâcher prise sur la voix et justement laisser l'émotion conduire la technique vocale quelque part.
Merci beaucoup à vous, Patricia Petitbon. Je rappelle qu'on peut vous voir actuellement sur la scène de l'Opéra Comique de Paris dans une mise en scène d'Olivier Py, sous la direction de Marc Minkowski pour Manon, un opéra de Jules Massenet. Merci.
Merci à vous.